divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis ravi de vous retrouver en ce premier dimanche du mois d'octobre pour le Grand Orient de France. Grand Orient de France qui organise une série de conférences tout au long de l'année 2015-2016, de conférences publiques qui se dérouleront dans différentes villes de France. J'aurai l'occasion d'y revenir, de les citer, et vous aurez la possibilité de trouver tous les renseignements sur le site du Grand Orient de France, www.godf.org pour avoir des précisions sur les lieux, les dates. Ces conférences sont des réflexions ouvertes sur des thèmes qui permettent l'illustration et la réalisation de divers engagements humanistes sous différentes formes. Il s'agit, dans le prolongement de la démarche initiatique, qui est toujours personnelle, de chercher, de conforter collectivement ce qui donne sens à notre monde, ce qui contribue à une meilleure conscience de la dignité humaine, et de raviver les valeurs de l'humanisme, de la fraternité et de la solidarité. La première de ces conférences se tiendra à Paris le 20 octobre, 16 rue Cadet, et sera consacrée à la dignité au travail et à la reconnaissance d'un phénomène dont nous avons tous entendu parler, même si nous le connaissons mal, le burn-out. C'est ce dernier thème qui sera au cœur de notre émission avec mon invité Jean-Claude Delgène, fondateur de Technologia, expert sur les risques liés au travail et qui enseigne à Dauphine. Bonjour Jean-Claude Delgène.
Bonjour.
Comme je le disais, tous nos auditeurs ont entendu parler du burn-out, mais qu'est-ce que c'est au juste? Quel est le processus qui conduit à cet épuisement professionnel?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail, que l'on en ait ou pas d'ailleurs, est dimension très importante de la vie humaine. Le travail, c'est pas simplement une suggestion consentie, une subordination acceptée, c'est pas simplement une rémunération, c'est le lieu par excellence du lien social, c'est ce qui nous permet d'avoir une identité professionnelle, c'est ce qui nous permet, y compris, de nous créer au quotidien. Le travail est donc un protecteur. D'ailleurs, on le voit bien dans, les différentes crises suicidaires. La personne qui n'a pas de travail est souvent plus soumise à ce risque que celle qui en a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis en fait une quinzaine d'années, les mutations du travail, les mutations de la vie en société font que le travail protège beaucoup moins qu'avant. Et même dans certaines circonstances, le travail peut conduire l'individu dans des situations extrêmes telles que l'épuisement professionnel dont on parle. Donc pour moi, il est important de bien situer, le travail est essentiel à nos existences. Par contre, le travail, parfois, peut dériver et peut conduire l'individu dans des situations extrêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait est que d'un côté, il y a des exigences professionnelles qui peuvent être démesurées, que la personne reçoit. Alors, ces exigences professionnelles, elles peuvent être de nature qualitative ou quantitative. Je suis jeune prof, on m'envoie dans une classe extrêmement difficile, personne ne me soutient, je vais subir un stress chronique qui va être tel que je peux très bien faire un burn-out, comme on dit. Je suis jeune commissaire, on m'envoie dans une banlieue très dure, sans soutien, isolée, etc. Pareil. Vous voyez, donc, ça peut être qualitatif ou quantitatif. Quantitatif, c'est quand vous êtes à aligner des journées de travail qui peuvent, encore une fois, altérer la santé. Une étude récente a montré que lorsque vous étiez à plus de 55 heures de travail par semaine, vous aviez un risque d'AVC qui augmentait de un tiers. Donc, ce n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le travail excessif qui est demandé par l'employeur, d'un côté, et vous avez, par ailleurs, le travail dit compulsif. Qu'est-ce que c'est que le travail compulsif? Le travail compulsif, c'est quand les gens se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». Pourquoi les gens se disent cela? En fait, en France en particulier, vous avez une pression du chômage de masse depuis maintenant une vingtaine d'années, qui fait que les gens se remontent le ressort, ils ont peur de, je dirais, la déchéance sociale. Dernièrement, je rencontrais à Clermont-Ferrand un technicien en maintenance. Et ce garçon m'expliquait qu'il travaillait beaucoup. C'est vrai, il faisait 66 heures au cours des 6 derniers mois par semaine. Bon, 66 heures par semaine, c'est beaucoup. Il gagnait très bien sa vie. Mais il me dit, ma femme est au chômage depuis 18 mois, j'ai les crédits, j'ai 3 enfants. Si je travaille pas beaucoup, j'y arrive pas. Et en plus, il va y avoir peut-être un plan social dans ma boîte. Donc, je fais en sorte de me maintenir en travaillant beaucoup. D'être indispensable, vous voyez. Et donc, il se remonte, je dirais, un peu le ressort comme celui-là, comme cela. Et donc, quand vous combinez travail excessif et travail compulsif, on peut être dans un engrenage qui conduit à l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel se caractérise par 4 phases. Très rapidement, pour que nos auditeurs comprennent, en tant qu'expert, je les précise. La première phase, c'est celle du surengagement heureux. La personne fait avec, comme on dit, elle a beaucoup de plaisir au travail. Le plaisir est très important dans ces notions-là. Hein. Elle a beaucoup de plaisir au travail, elle s'arrange avec les contraintes du travail.
Si elle on peut même avoir conscience d'avoir beaucoup, beaucoup de travail et tirer plaisir de s'en sortir et d'y arriver.
Oui, il y a un côté même jouissif parfois, hein, bien sûr. Après, si elle travaille trop, si elle s'impose des contraintes trop fortes sur le long terme, elle va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de surengagement qui va lui coûter. Pourquoi ? Parce que le travail va tendre à se substituer à toutes les autres activités, y compris familiales. Les gens commencent à ne plus voir que le travail. Là encore, on peut s'en sortir tout seul. En revanche, si la personne continue à travailler démesurément, elle rentre dans ce qu'on appelle la troisième phase, qui est celle de l'acharnement frénétique. L'acharnement frénétique, là, la personne n'a plus la possibilité de mobiliser des émotions positives, elle est dans l'anxiété, elle travaille trop, elle travaille même mal. Quand vous travaillez trop, vous travaillez mal. Et elle a, en fait, des remontrances de la part de sa hiérarchie. Dans la première et dans la deuxième phase, elle avait une forte reconnaissance liée à son engagement. Dans la troisième phase, elle commence à être malmenée par ses collègues, voire, et surtout par sa hiérarchie. Et donc là, elle commence à être mal. Et elle a de l'anxiété, de l'angoisse. Et très souvent, se développe ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est que la personne perd ses marques par rapport à elle-même. Elle se demande si elle est la bonne personne à la bonne place. Vous voyez ? Et donc, là, très souvent, le risque, c'est que la personne travaille encore plus pour essayer de récupérer ce qu'elle avait auparavant. Et plus elle travaille, moins bien elle travaille. Et donc, dans cet engrenage, elle peut aller à la quatrième phase, qui est celle, je dirais, de l'effondrement. C'est-à-dire, l'effondrement, ça peut être un AVC, ça peut être un infarctus, ça peut être la dépression d'épuisement. Et là, la personne, elle est très gravement en risque. On sait que le burn-out conduit au suicide aussi. C'est un facteur prédictif de suicide. Donc, il faut faire très attention. Et en phase 3, comme en phase 4, on ne peut pas s'en sortir aussi facilement que cela. On est tellement dans une logique productiviste, le cerveau dicte tellement de choses au corps que pour sortir l'individu, il faut vraiment mettre le travail à distance et qu'il soit aidé.
Alors, quelles sont les conséquences à la fois physiques ou psychologiques pour celui qui est touché par cet épuisement ?
Il y a 3 types de symptômes.
L'avez un peu dit, AVC,
oui.
Voilà.
Alors, très souvent, ce que l'on voit, c'est la fatigue chronique. La personne, elle est incapable, de récupérer. Le corps est bien fait. Quand vous dormez une nuit, deux nuits, vous récupérez de votre fatigue. Là, la personne est incapable de se ressourcer par le sommeil. Très souvent, vous avez des prises de poids ou des pertes de poids. Vous avez des situations, vous avez des éruptions cutanées. Enfin, vous avez des symptômes comportementaux, l'agressivité, l'irritabilité, l'incapacité à rester en place. L'agressivité est souvent notoire. Vous voyez, donc, ces symptômes renvoient l'image d'un individu qui est traversé par des tensions qui peuvent lui être très préjudiciables et il faut lui porter secours d'une manière adaptée.
Le coût du burn-out est parfois exorbitant pour la personne, pour la victime, mais il a aussi un coût social qui est méconnu, Jean-Claude Delgenais.
Oui, actuellement, on a une situation, où globalement, les gens sortent de l'entreprise, sortent du service public, ils sont considérés comme étant malades ordinaires. Et donc, en fait, les coûts sont supportés par le régime général de l'assurance maladie, vous voyez. Alors que, en fait, on peut considérer, je pense, de plus en plus d'ailleurs, les gens sont d'accord là-dessus, qu'il devrait y avoir, y compris, une partie des coûts qui soit assumée par l'employeur. Il n'est pas normal de mettre à la charge de la collectivité l'ensemble de ces symptômes. Quand vous avez travaillé 2 ans, 3 ans, 80 heures par semaine, si vous faites, un épuisement professionnel, c'est tout à fait, logique. Et que, est-ce que c'est à la collectivité de prendre en charge la personne lorsqu'elle est abîmée comme celle-là, parce que la personne peut partir pour 1 an, 2 ans, 3 ans en arrêt maladie? Je pose la question.
Oui, ça fait partie des charges qu'on fait peser sur la collectivité et qui relèvent d'une gestion d'entreprise, disons-le, d'une mauvaise gestion d'entreprise.
Absolument.
Parlait des néo-titulaires dans le jargon de l'éducation nationale, des jeunes profs.
Ouais.
Je peux vous dire qu'ils arrivent quasiment tous dans des postes parmi les plus difficiles.
Absolument. Cette logique est en fait néfaste. Pourquoi ? Parce que c'est celle de la facilité. Et en fait, on ne peut pas non plus faire de prévention. Pourquoi ? Parce que la personne qui sort, par exemple, d'une entreprise et qui est en épuisement professionnel, elle est considérée malade avec une défaillance personnelle. Donc, le secret médical s'applique. Donc, si le secret médical s'applique, on ne peut pas en discuter à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, avec les délégués du personnel, avec les membres du CHSCT, avec la direction. Personne n'en parle. Alors, vous avez des entreprises où tout se passe bien. La grande majorité des entreprises, ça se passe très bien. 75% des entreprises, ça se passe à peu près bien. Et puis, vous avez un certain nombre d'entreprises où il y a des dizaines de gens qui partent comme une noria, comme ça, en épuisement professionnel. Parce que vous avez des méthodes d'organisation du travail trop pressantes ou des méthodes de management qui sont non adaptées. Idem dans le service public. Donc, il faut donc revoir un peu tout cela. Et pour revoir tout cela, une des raisons sur lesquelles moi je milite pour la reconnaissance plus facile au niveau des maladies professionnelles, c'est qu'il faut faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut connaître réellement, avoir, les sources. Or, on les a pas, les sources, que les gens sont considérés comme malades ordinaires.
Mais il y a probablement des résistances, y compris du côté de la victime, à faire reconnaître sa situation, bien évidemment du côté de l'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité très souvent chez celui qui est atteint cet épuisement, le sentiment de pas y arriver, de qu'on a été au-dessous de sa mission, qu'on y arrivait avant et qu'il n'y a pas de raison, que ça ne continue pas.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le syndrome de l'imposteur, mais globalement, la personne, lorsqu'elle veut se faire reconnaître, elle rentre dans une logique qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que sur les pathologies psychiques, il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle. Donc, on ne peut pas se référer à des tableaux, premièrement. Donc, il faut, puisqu'il n'y a pas de tableau, passer devant des commissions régionales de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans toutes les régions, il y a des commissions animées par des médecins de la Sécurité sociale qui examinent les dossiers. Sauf que, pour pouvoir simplement instruire un dossier, pour qu'il puisse être traité, on va vous demander d'avoir un taux d'incapacité professionnelle permanente, un taux d'IPP égal à 25%. 25%, les auditeurs comprendront quand je vais expliquer ce que ça signifie. On vous arrache une main, vous avez 20% d'IPP. On vous arrache un œil, vous avez 25% d'IPP. Donc là, quand on vous demande 25% d'IPP du point de vue psychique, c'est énorme. Alors, il y en a quelques-uns qui...
Et comment le démontrer ?
Alors, on sait qu'une dépression, par exemple, c'est à peu près 10% d'IPP. Hein, on sait qu'une dépression liée à un épuisement professionnel, c'est à peu près ça. Les spécialistes vous disent que c'est 10, bon, allez, voire 15 dans certains cas, mais pas 25. Donc, ça veut dire qu'on a mis les radars tellement haut que les gens ne peuvent pas être reconnus. Il y a quelques centaines de personnes qui ont été reconnues l'an dernier.
Vous militez justement pour qu'il y ait cette reconnaissance et prise en charge du burn-out. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, semble-t-il, le Grand Orient
m'a invité,
vous a invité à cette conférence publique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette reconnaissance puisse...
On peut très bien, comme par exemple au Danemark, créer un tableau. Les Danois, par exemple, ont créé un tableau sur le stress post-traumatique. On peut faire comme en Suède. En Suède, il n'y a pas de condition d'éligibilité. Le citoyen qui s'estime victime peut déposer un dossier, il sera examiné. En France, encore une fois, on renvoie les gens au néant. Et quand on renvoie les gens au néant, on aggrave le mal parce que les gens, il y a un risque psychique plus élevé parce que les gens sont rejetés. Donc, ce qui crée encore plus de difficultés à les soigner alors qu'ils sont à la charge de la collectivité. Ça ne peut pas durer. Donc, moi, je propose soit d'abaisser les seuils de 25 à 0, comme en Suède, de considérer les gens comme étant, des citoyens, pas des citoyens de seconde zone, que des survivants surnuméraires qu'on ne veut plus voir, ou soit de créer des tableaux comme au Danemark. C'est tout assez simple.
Eh bien, Jean-Claude Delgène, merci de cet éclairage. Je rappelle la conférence publique dans laquelle vous interviendrez le 20 octobre, 16 rue Cadet, consacrée à la dignité du travail et à ce risque du burn-out.
Si je pouvais me permettre d'ajouter une chose, sur la maladie professionnelle, il est très important pour l'individu d'être reconnu, parce que sinon il paye les frais médicaux, il perd de la rémunération variable, il ne peut pas avoir de rente, donc c'est quand même très important. Je voulais remercier le Grand Orient de France de m'avoir invité et de pouvoir mener ce combat, parce que c'est un combat qui est difficile à mener.
Tout à fait, ben merci encore. Je voulais dire un mot sur la réouverture de la bibliothèque du Grand Orient de France, qui est toute neuve et maintenant de nouveau accessible aux chercheurs. Je pense que certains de nos auditeurs seront très intéressés, universitaires, maçons bien évidemment, mais pas uniquement. Toutes les recherches sont les bienvenues. Il y a de nouveaux outils, il y a des possibilités de numérisation. Et le directeur que nos auditeurs connaissent, Pierre Mollier et Irène Mingui, qui sont en charge de cette bibliothèque, seront ravis de vous recevoir. Je vous renvoie une dernière fois vers le site du Grand Orient de France pour avoir des informations complémentaires sur cette conférence et sur les autres conférences publiques. Il y en aura de mémoire à La Rochelle, dans le Nord, je crois autour des migrants du côté de Calais. J'aurai l'occasion dans les émissions à venir, en tout cas d'y revenir, de les signaler et sans doute d'y consacrer de nouvelles émissions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et la télécharger pour la réécouter autant qu'il vous plaira, au moment où ça vous va le mieux. Et vous pouvez aussi l'écouter sur le site du Grand Orient de France. Éric Boisset était à la prise de son, Dany Journeau à la réalisation. Bon dimanche, bon mois d'octobre, en espérant vous retrouver le dimanche 1er novembre.